Cette visite vous est proposée par l'Office de tourisme et pays d'accueil du Pré-Bocage. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 02 31 77 16 14 ou sur notre site internet bocage-normand.com. Chapitre 1, Place Générale de Gaulle. Bienvenue à Villers-Bocage. Nous voici sur la place Générale de Gaulle. Placez-vous face à la route. Villers-Bocage doit son nom à Villa, qui signifie en latin « domaine rural ». Le bocage, quant à lui, est un paysage caractérisé par des prés séparés par des haies. Cette ville est un village rue depuis le haut Moyen-Âge sur la route de Caen à la Bretagne. Villers-Bocage compte environ 3000 habitants et possède une richesse historique et patrimoniale. La période la plus importante pour la ville est la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que le Calvados est le département le plus touché par les destructions de cette guerre. Villers-Bocage fut d'ailleurs détruite à 90% pendant la Seconde Guerre mondiale et fut reconstruite presque à l'identique entre 1948 et 1960 en adaptant l'urbanisme au trafic automobile. Derrière vous se trouve une ancienne halle couverte construite dans les années 1950 pour abriter le marché au beurre. Il existait autrefois trois halles de ce type. Les deux autres étaient destinées au marché au petit porc, aux poissons et aux légumes, mais elles ont disparu aujourd'hui. Remontez maintenant la rue principale de la commune, la rue Pasteur. Fin du chapitre 1. Appuyez sur le bouton pause, puis reprenez la visite lorsque vous arrivez à la prochaine étape. Chapitre 2. Rue Pasteur. Cette rue était anciennement appelée la Grande Rue. Au Moyen-Âge et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Villers était un village-rue. C'est-à-dire que tout le village s'étendait sur sa longueur, formant une route principale. Les jours de marché, cette rue était animée par la population et les charrettes des agriculteurs venant vendre les produits de leurs exploitations. C'est ici que les commerces se succèdent et où passe la circulation de la route nationale. Il a été décidé, après la destruction de la ville et lors de sa reconstruction, de laisser cette organisation dans la ville. C'est dans cette rue que se sont déroulés les combats entre les alliés et l'ennemi pendant l'été 44. Fin du chapitre 2. Une fois arrivé au feu de circulation, tournez à droite et faites une vingtaine de mètres. Vous arrivez devant une maison de couleur orange, au style architectural original. Appuyez sur le bouton pause, puis reprenez la visite lorsque vous arrivez à la prochaine étape. Chapitre 3. Boulevard Joffre. Cette maison en pierre, briques et ciment date des années 1930 et est influencée par le style international. Le style international se présente donc comme une tendance moderniste et recherche le dépouillement dans la décoration, laissant souvent le béton à l'état brut ou les briques visibles, comme c'est le cas ici. L'habitation que l'on a sous les yeux reprend les caractéristiques de ce style. Elle comporte des volumes simples, largement éclairé et avec peu de décoration.
Le style international est un courant qui s'est épanoui dans les années 1920 jusqu'à la fin des années 80 dans le monde entier. Il représente en grande partie l'architecture des Trente Glorieuses. Ses caractéristiques principales sont de construire des bâtiments en rupture totale avec les traditions du passé. Les architectes décident de mettre en valeur les volumes par des surfaces extérieures lisses et sans ornementation. Ils souhaitent appliquer le principe de régularité et utiliser pour cela toutes les possibilités offertes par le ciment, l'acier et le verre.
Au cours de la grande crise des années 30, la simplicité et l'économie du style international se sont imposées comme solution au pressant problème du logement social, grâce à sa décoration épurée et donc moins coûteuse. Le nouveau contexte socio-économique, tout autant que l'esthétique de l'architecture moderne, a ouvert la voie à la consécration du style international en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Cette maison, malgré son architecture moderniste, est une des plus anciennes maisons de la ville ayant survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Le boulevard Joffre a été construit après la Première Guerre mondiale et a abrité les premiers HLM. Fin du chapitre 3. Passez maintenant derrière l'hôtel de ville et gagnez la rue du Pied-Fourchu. Appuyez sur le bouton pause, puis reprenez la visite lorsque vous arrivez à la prochaine étape. Chapitre 4. Rue du Pied-Fourchu. Beaucoup de noms de rues à Villers connotent la Première ou la Seconde Guerre mondiale, telles la rue Georges Clémenceau, le boulevard Joffre, Foch, De Gaulle. Ainsi, très peu de rues portent leur nom d'origine, à l'exception de la rue dans laquelle nous sommes, la rue du Pied-Fourchu. Le Pied-Fourchu est un pied constitué de deux sabots ongulés, comme ceux des bovins, qui passaient par cette rue lorsqu'ils étaient amenés au marché. La légende dit aussi que c'est dans cette rue que les agriculteurs parquaient les bêtes boiteuses lors du marché, afin de les cacher aux yeux des éventuels acheteurs. Fin du chapitre 4. Remontez maintenant la rue vers le marché aux bestiaux. Appuyez sur le bouton pause, puis reprenez la visite lorsque vous arrivez à la prochaine étape. Chapitre 5. Le marché aux bestiaux. Villers-Bocage est une importante place de marché dès le XIIIe siècle, de par sa situation privilégiée sur le chemin de la Bretagne. Après la guerre de Cent Ans, le marché de Villers est réputé pour la quantité de beurre qui y était importée. Les animaux y étaient nombreux, surtout les jours de foire de la Saint-Pierre et de la Saint-Jean. Le marché est devenu très vite un endroit de rencontre et d'échange. Être marchand à Villers était un privilège. Le marché aux bestiaux se tenait en haut du bourg. Pour pouvoir vendre un animal à cornes, il fallait payer un sou, soit l'équivalent d'un centime d'euro. Au XIXe siècle, le marché de la viande de Villers-Bocage est devenu l'un des plus importants de l'Ouest. C'est d'abord pour son service que la gare est construite, puis elle sera déclarée d'utilité publique en 1881. On compte parfois 5 à 6 trains par semaine, avec un total de 150 wagons, la plupart formés le mercredi, jour de marché. Villers-Bocage s'impose alors comme le centre d'expédition de bovins vers toute la France. Le marché aux bestiaux est un vaste brouhaha de voix et de mugissements. Il y a les marchands locaux. Leur rôle est de rassembler sur le marché les animaux des régions voisines. Ils partent dès le lundi en carriole avec leur cacheux. Le cacheux est un personnage très typique du monde agricole. Le patron rentrera à Villers avec sa voiture, mais le cacheux fera la route à pied avec les bêtes. Les transactions commençaient le mercredi, dès 4 heures en été et 10 heures en hiver. Ce marché génère toute une économie indirecte. En 1906, il y a dans le bourg 27 restaurants et cafés, soit un pour 39 habitants. Mais les jours de marché, ils suffisent à peine à désaltérer tous les cultivateurs et visiteurs. La plupart des affaires sont en effet réglées autour d'un verre, ce qui explique la densité des cafés pour un bourg de 1200 habitants à l'époque.
Il y avait du monde à cette époque. De toute façon, vous devez le savoir, hein. Villers, à cette époque-là, c'était le deuxième marché de France, point de vue bestiaux. Parce que le train, il passait à Villers avant. Hein, il y a encore la gare là-bas à SNCF. C'était des copains qui se revoyaient et tout. Hein. Les agriculteurs ils se retrouvaient tous ensemble. Hein. Alors après, ils allaient boire un coup, ou ils s'arrangeaient pour vendre leur truc. Ça se faisait comme ça.
Ici, les gens venaient vendre les œufs, le beurre, les grains et animaux. Mais acheter aussi de la viande, des produits alimentaires, vêtements, tissus, quincailleries. Le marché actuel date de 1956, année de son ouverture. Ce marché couvert aux bestiaux a une surface de 5 000 m². Cette halle est en fibrociment et possède une charpente métallique à couverture plate. Cette structure repose sur un terre-plein surélevé par rapport au niveau des voies d'accès, car cette disposition permet l'aménagement des quais nécessaires aux divers transbordements d'animaux. Aujourd'hui, ce marché couvert n'est plus utilisable dû aux exigences commerciales et sanitaires, mais aussi à cause des évolutions techniques de l'agriculture et de l'élevage. Cette place fut alors transformée en parking. Fin du chapitre 5. Montez désormais à l'extrémité de la place, en haut à droite, où se trouve le centre Richard Lenoir. Appuyez sur le bouton pause, puis reprenez la visite lorsque vous arrivez à la prochaine étape. Chapitre 6. Centre Richard Lenoir. Richard Lenoir est un enfant du pays. Né à Épinay-sur-Odon en 1765, il exerce son métier de filateur de coton sous le Consulat et le Premier Empire. Il se trouve à la tête de nombreuses usines. Étant plus jeune, il se lance dans le commerce du tissu anglais, appelé le basine, alors très à la mode. Richard Lenoir découvrit le secret de fabrication de ce tissu et le fabriqua lui-même sur place plutôt que de l'importer. Mais rusé, Richard continua d'imprimer la marque anglaise sur ses propres tissus en les vendant ainsi plus cher. Puis Richard s'associa à un certain Lenoir. Les deux noms se trouvèrent si étroitement liés que l'on dit toujours Richard Lenoir, même en parlant de Richard. Il convertit abbaye et couvent en manufacture, dont l'abbaye d'Aunay-sur-Odon, qui employait 600 ouvriers. D'origine modeste, Richard Lenoir passa pour l'homme le plus riche du XIXe siècle. Une statue fut érigée à son effigie en 1865. Elle se trouvait au nord de la rue principale. Mais l'occupation allemande en 1944 fait déboulonner la statue pour en récupérer le métal.
La statue, elle était juste fixée, elle était grande, elle faisait bien 2 mètres de haut. Hein. Elle était juste posée sur un socle. Alors, ils ont voulu la lever, ils ont installé une chèvre, ils l'ont levée et ils l'ont posée sur un camion. Et à ce moment-là, ils ont fait une fausse manœuvre, il y a un des ouvriers qui a dû laisser sa main où il fallait pas. Et la statue s'est posée sur sa main, il avait les doigts écrasés. C'était du bronze. Hein. Les Allemands récupéraient le bronze pour l'armée. Hein.
Le centre culturel Richard Lenoir est une ancienne étable appartenant à une maison des années 1920. Cependant, elle fut agrandie et remaniée au début des années 90 pour devenir un centre culturel polyvalent. Cette salle porte très justement le nom de Richard Lenoir. Fin du chapitre 6. Nous avons pu voir jusqu'à présent le dynamisme de Villers-Bocage par le passé. Mais l'été 44 va marquer la ville à tout jamais. Pour en savoir plus, redescendez la rue en direction de l'artère principale du bourg, la rue Georges Clémenceau. Appuyez sur le bouton pause, puis reprenez la visite lorsque vous arrivez à la prochaine étape. Chapitre 7. Rue Georges Clémenceau. L'occupation et la résistance. La période historique la plus importante pour Villers-Bocage est sans aucun doute la Seconde Guerre mondiale. Tout commence en 1940. Dans la nuit du 19 au 20 juin, les premiers commandos allemands investissent la ville et vont l'occuper dès le 1er juillet. Les Allemands réquisitionnent le château, les écoles et s'installent chez les particuliers.
Un matin, on descendait à l'école. Et il y avait toute une colonne allemande motorisée qui était stationnée dans le bourg de, dans une petite rue dans le bourg de Villers. Là. On arrive à l'école. Et à l'école, on dit... L'école s'est terminée pour eux, hein, parce que les Allemands occupent l'école. Bon, nous, forcément, on était contents, hein, plus d'école. C'était des vacances. Et en arrivant, quand ils sont arrivés à Villers, ils ont organisé un concert sur la place, comme ça serait sur la place de la mairie, là. Mais c'était sur la place Richard Lenoir en haut. Il y avait, je sais pas, il y avait au moins 30 ou 40 musiciens, tout un grand cercle. Et ils ont organisé un concert pour la population, mais il y avait presque personne, hein, à part nous les gamins, parce que c'était nous on habitait sur la place Richard Lenoir et j'avais juste à ouvrir la porte pour voir le concert. Total, ça plaisait pas mes parents non plus. Hein. Ils ont organisé un concert. C'est la première fois que j'ai vu les soldats allemands arriver, moi. Alors après ils ont occupé l'école, ils ont occupé auprès de chez nous, il y avait une halle au grain, une grande halle au grain. Ils ont occupé la halle au gras, il y a des canons dans la halle, avec des camions. Tous les jours, ils sortaient leurs canons pour les nettoyer. Et nous, les gamins, on était toujours avec les soldats. On les regardait, c'est tout. Parce que c'était des autres. Il y avait beaucoup d'Autrichiens à ce moment-là.
Nous rentrons dans une période de rationnement et de son pendant, le marché noir. Le couvre-feu est instauré.
Et le soir, on couvre-feu à 9h. Toutes nos vitrines, nos fenêtres étaient camouflées avec des couvertures. Et il y avait une patrouille. Tous les soirs, la patrouille passait. S'ils voyaient un petit filet de lumière, alors ils tapaient dans la porte pour dire qu'il fallait mieux se cacher.
Malgré tous les dangers, dès juin 1940, deux réseaux de résistance sont constitués. Le réseau Hector et le réseau Alliance, qui étaient chargés de renseigner les alliés sur les unités allemandes et les champs d'aviation. L'électricien Jean Cabi était à la tête du réseau Villeroy depuis mai 1942. Tous les renseignements recueillis ne pouvaient pas être transmis par radio. Les croquis et les plans étaient donc communiqués par des coursiers. Cabi avait d'ailleurs confié quelques missions à son jeune employé, qui allait porter des papiers dans les tubes de sa bicyclette. Il a même transporté un poste émetteur d'une ferme à l'autre sans le savoir. Plusieurs habitants de Villers vont ainsi prendre des risques et uniront leurs efforts pour donner des faux papiers et ainsi sauver de nombreuses vies.
Ah, dans Villers, oui, il y avait les résistants, oui. Ils étaient 4 ou 5 à Villers. Donc M. Gabi, un électricien, M. le Baron, un agent d'assurance, M. Toral, M. Aubin, un cordonnier aussi, M. Briard. Aussi mes parents, mon père, il avait trouvé du travail dans les fermes, où, dans un bois à Villers-Bocage. Il fabriquait du charbon de bois. Alors avec lui travaillaient des jeunes qui étaient comme STO pour aller travailler en Allemagne, mais qui se cachaient là en Normandie. Et avec lui, il avait deux STO avec lui.
Ces efforts ne furent pas vains, mais coûtèrent malheureusement la vie de certaines personnes. Monsieur Briard, par exemple, décédera en mars 1944 à son arrivée au camp de Mauthausen. Monsieur Huet ne sera pas arrêté. Il sera victime d'un mitraillage lorsqu'il faudra évacuer Villers-Bocage. Mais l'histoire de Villers va être réellement bouleversée après le débarquement des Alliés le 6 juin 1944. Avancez-vous jusqu'à la place centrale du bourg, à l'ouest. Appuyez sur le bouton pause, puis reprenez la visite lorsque vous arrivez à la prochaine étape. En prévision du D-Day, les Alliés vont bombarder la zone, provoquant ainsi de nombreux dégâts.
Le samedi, ils recommencent à bombarder sous l'ordre de Saint-Louis. C'est pareil, il y avait des Allemands qui étaient cachés là dans ce qu'on appelle la fontaine fleurie maintenant. Avant, c'était la fontaine pourrie. Hein. C'était un mauvais chemin et les colonnes d'Allemands qui devaient être cachées dans le chemin. Là. Et les avions, ils avaient repéré. Alors, ils sont venus bombarder, c'était vers 7h. Je m'en rappelle, moi, à la maison, on allait se mettre à souper. La table était servie, alors il y avait les assiettes, le potage avec dans la soupière. Tout d'un coup, première bombe qui tombe. Mon père prend ma soeur le long d'un mur, ma mère prend mon petit frère le long d'un autre mur, et moi je me cachais dans la cage d'escalier, parce qu'on avait deux étages. Tout d'un coup, je vois toute la table qui a été servie, elle s'en va comme un fétu de paille, hein, ça s'envole par la déflagration des bombes qui tombent à un côté. Ouh, ça sentait le roussi. Hein. Bon, ça durait peut-être un quart d'heure, même pas 10 minutes. Les cailloux tombaient partout, les fenêtres arrachées. Quand c'était fini, on sort dehors, je sors avec mon père, et puis il y a quelqu'un qui dit « Apportez des pelles, des pioches, parce qu'il y a des gens qui sont restés sous les maisons, là, sous la route de Saint-Louis. » Alors, on a été voir, sous la route de Saint-Louis, de fait. Moi, j'avais un copain à l'école, là. Sa maison était complète. Sa mère était sous le pas de la porte, elle était balancée un peu plus loin. Le père était pas là, il était parti en vendredi, je sais pas où, il était pas dans la chérie. Les deux gamins, ils s'étaient coulés sous les tonneaux. Ils avaient une cave avec des tonneaux. Sous les tonneaux, il y a des gros biches de bois. Ils s'étaient coulés sous les tonneaux. Tout est tombé sous les tonneaux. Ils n'en ont rien eu. C'est pour ça qu'il fallait les dégager avec des pelles et des pioches. Je vois encore, il y avait une Volkswagen allemande avec des officiers là-dedans qui étaient sous un arbre. Plein de poussière. On les reconnaissait pas. Oh, ben, ils ont eu peur. Hein. Ils ont manqué d'y penser. Hein.
Ces quelques signes précurseurs annoncent un événement attendu depuis longtemps.
Alors j'étais en pension à Caen et je suis rentré le samedi soir qui précédait le débarquement en autostop de Caen à Villers-Bocage. Et j'ai donc fait la route pour aller jusqu'à Aunay-sur-Odon à pied, de Villers-Bocage à Aunay-sur-Odon. Et du haut de la côte Abélissant, j'ai vu le premier mitraillage qui était une locomotive qui était à la gare de Saint-Georges-d'Aunay. Et là, j'ai vu la vapeur et j'ai su, après coup, que tous les aviateurs anglo-américains avaient ordre de mitrailler déjà dans les jours qui précédaient le débarquement. Voilà, c'était déjà un symptôme.
Le 6 juin 1944, au petit matin, les forces alliées débarquent. Le jour J est enfin arrivé.
Dans la nuit du 6 juin, entre, on va dire, 2 heures du matin et petit jour, nous avons entendu un roulement lointain comme un orage qui se trouve assez loin. Et en plus, nous avons vu sur la côte le ciel complètement illuminé toute la nuit. C'était déjà impressionnant et là, nous avions compris que c'était le débarquement.
Fin du chapitre. Chapitre 8. La bataille de Villers. Une semaine après le jour J, le 13 juin 1944, alors que les 150 000 hommes débarqués le 6 juin sur les côtes normandes ont réussi à former un secteur libéré entre Caen et Saint-Lô, les troupes américaines s'approchent de Caumont-l'Éventé, à quelques kilomètres de là. Mais pendant ce temps, l'avant-garde de la SS Panzerableitung 101 arrive aux alentours de Villers-Bocage avec à son commandement le général allemand Wittmann, réputé pour avoir détruit 117 chars soviétiques en 7 mois. Sentant le danger, le général Montgomery va lancer l'opération Perch. Mais la veille de l'opération, le général Dietrich place 5 chars de Wittmann à l'est de Villers-Bocage, en haut du bourg. Au petit matin, les chars britanniques font leur entrée dans la ville, du côté ouest. Chaleureusement accueillie par les civils, la colonne de chars s'arrête en ville sans aucune mesure de sécurité. Quelques blindés sont envoyés en reconnaissance. Mais au bout du chemin, Wittmann s'apprête à surgir de sa cachette.
Ben, c'était le mardi. Anqueville, on nous annonce les Anglais sont amaillés. Et puis, ils s'en vont sur Villers. Oh, ben, dis, c'est bon, ça y est, on est libérés. Je me rappelle, mais mes parents étaient les voir amaillés. Ils ont emmené du scie, tout ça, des fleurs, tout ça. Mais alors, ils sont venus à Villers, ils ont libéré Villers. Ils sont montés jusqu'au Deslandes, là, où il y a les châteaux d'eau, là. Et là, les Allemands ont riposté.
Vers 9h, Wittmann attaque les blindés de reconnaissance et file vers le centre du bourg où il continue à détruire tous les chars sur son passage. Sentant tout de même une menace vers le bas de la ville, Wittmann fait demi-tour. En très peu de temps, seulement 5 chars allemands ont réussi à anéantir une cinquantaine de blindés britanniques. Les troupes anglaises décident alors d'organiser la défense de la ville. Ils se positionnent dans les maisons, derrière les fenêtres, sous les porches ou dans les ruelles. Un peu plus tard, Wittmann revient et des combats de rue vont se poursuivre toute la journée.
Alors ça durait toute la bagarre dans Villers, ça durait toute la journée à peu près, hein. Même le lendemain. Parce que le lendemain, le père dit, si on est libéré, je m'en vais à Villers voir comment est la maison. Mais d'Anqueville à Villers, ils se sont fait arrêter par des tigres allemands au haut de Saint-Louel, qui leur ont présenté le revolver sur lui, il a dit « demi-tour tout de suite ». Alors il est revenu à Anqueville bien vite fait.
Les pertes sont lourdes, des deux côtés. Et les Britanniques, refusant d'appeler les forces américaines en renfort, vont se replier. Cette bataille est décisive pour l'histoire de Villers-Bocage est celle de la libération de la Normandie. L'opération Perch est un cuisant échec pour la 7e division blindée britannique et pour les Alliés en général. De son côté, la propagande allemande va s'emparer de cette victoire et Wittmann va être élevé au statut de héros. Il recevra même une médaille des mains du Führer. La libération est donc retardée. Les habitants de Villers vont souffrir de l'occupation et des combats pendant encore 7 terribles semaines.
On se ravitaillait dans les fermes. Ah oui. Moi, je vois tous les fromages, on les achetait à la ferme. Le pain, bon, on mangeait du pain gris comme tout le monde. Et puis il y avait des gens qui abattaient de la viande en campagne. Hein. On se ravitaillait comme ça. Il ne fallait pas se faire prendre et puis c'est tout. J'étais avec mon copain et on suivait un groupe de soldats allemands. On le suivait derrière, montait bien à 5-6 mètres derrière. Et je vois le soldat allemand qui fouille dans sa poche. Et puis je vois quelque chose qui tombe de sa poche par terre. Je dis à mon copain, laisse les filets, nous on va voir s'il a perdu. Et il avait perdu toute sa paye de soldats du mois. Je jure que nous on l'a ramassé. Hein. Devinez ce qu'on a acheté avec. On avait acheté un furet pour aller à la chasse au lapin. Et à partir de ce moment-là, on allait à la chasse autour de Villers, là, dans les fossés, et on ramenait du lapin. Des fois, on en donnait aux grands-mères, aux grands-mères et tout ça. Avec la paye du soldat allemand, oui.
Mais la bataille continue. Pour empêcher les rassemblements des Panzers, les Alliés écrasent les alentours sous un bombardement massif. Le 30 juin, 250 avions viennent déverser sur l'agglomération 1350 tonnes de bombes. La ville est anéantie. Pendant les bombardements et après la destruction de Villers, la population se réfugie au château, qui sert alors d'hôpital. Une grande croix rouge sera installée sur le toit du bâtiment pour éviter que les Alliés ne le bombardent. Les propriétaires, monsieur et madame de Clermont-Tonnerre, font tout leur possible pour aider les Villérois, mais les conditions de vie restaient difficiles.
Après, on a appris que le puits du château avait été empoisonné par les Allemands. Il y a eu beaucoup de gens qui ont attrapé la typhoïde, et il y en a certains qui sont morts.
Le 4 août 1944, la ville est enfin libérée, mais en ruine. La ville a été bombardée à 90%. Sur 520 habitations, 480 sont détruites et les 40 restantes sont endommagées. Un travail de reconstruction va alors débuter pour Villers-Bocage. Fin du chapitre. Appuyez sur le bouton pause puis reprenez la visite lorsque vous arrivez à la prochaine étape. Avancez-vous maintenant vers l'église Saint-Martin. Chapitre 9, la reconstruction. Le retour progressif des sinistrés se fait à partir de 1944. On comptait 200 habitants cette année-là, contre 1202 en 1936. La première phase de la reconstruction consiste à déblayer la ville. Elle durera 3 ans et sera effectuée par des prisonniers allemands. Il faut ensuite reconstruire les voies et les réseaux divers, tels l'eau, l'électricité, l'assainissement, le téléphone. Les écoles ouvrent dans 2 baraquements. La mairie est installée dans la cave du maire de l'époque, M. Doublé. C'est un grand baraquement de 7 pièces pour les différents services administratifs.
La poste dans un baraquement. L'église, elle se trouvait rue Joffre. En haut de la rue Joffre, parce que j'ai fait ma communion, moi. Puis il y avait le presbytère qui était juste à côté. Mais l'église, elle était là-haut. Et la poste, elle était dans les baraquements, là.
Tout un quartier sera réservé à la ville provisoire. Le boulevard Maréchal Joffre et la route donnée.
Ils ont d'abord monté des baraquements allemands, des anciennes douches. Ils en ont monté 6, je crois. La mairie était dans le sous-sol. Et les fameux baraquements, ils ont tiré au sort. Oui, c'était tiré au sort. Hein. Et nous, on était inscrits, forcément. En venant, on s'était fait inscrire à la mairie pour avoir un logement. On a eu le Venn, on a eu un baraquement. Et on est revenu à Villers dans un baraquement. Dans le baraquement, on est resté jusqu'en 1952. Alors, ils ont déblayé tout Villers. Ils commençaient avec des banneaux puis des chevaux. Puis après, ils avaient installé un petit train depuis le haut du bourg jusque dans le bord du bourg. Parce que tout Villers est en bas, là. Où il y a le parking des camping-cars. Oui. Tout Villers est en bas, là. Tout.
Pendant de longues années, le logement resta le problème numéro un. La population se loge dans les communes voisines, dans les quelques maisons debout ou encore au château. Puis, chacun sera relogé en attendant de nouvelles habitations, dans des baraquements de récupération ou dans des baraques données par l'État et des pays étrangers, comme les USA ou la Suisse. Les matériaux utilisés pour la reconstruction sont locaux. La pierre de Caen, le granit de Vire, la brique et le calcaire de Lisieux. De nouvelles normes d'urbanisme sont adoptées. L'élargissement des voies et des rues est décidé. Le découpage de la ville est organisé autour des services publics. En effet, la poste, la mairie et les impôts sont concentrés au centre du bourg. Mais cette construction ne plaît pas à tous. Certains bâtiments sont jugés audacieux, comme l'édifice qui se trouve à votre droite, l'église. Fin du chapitre 9. Chapitre 10, l'église Saint-Martin. Il existait, au XIXe siècle, une église de style plutôt baroque, située en bas du bourg. Mais le 29 juin 1944, le clocher de l'église s'effondre, annonçant la destruction de l'édifice dès le lendemain, lors du bombardement du 30 juin 1944. En septembre 1945, on réalise une église provisoire. On utilise une baraque militaire en forme de tonneau d'un camp anglais. Cette église se trouvait boulevard Joffre. Elle fut utilisée la première fois le 23 décembre 1945. Elle était composée d'une façade, d'une chapelle, de murs extérieurs en bois et d'un toit construit pour faire disparaître l'aspect tonneau.
Alors ce lieu de culte était très, j'allais dire, assez sommaire dans sa construction, puisque c'était fait c'était des tôles, donc on appelait ça souvent un peu les tonneaux, parce que c'était en arrondi, et donc c'était semblable un peu à un tunnel, et donc c'était dans ces lieux justement que le dimanche, là où il n'y avait plus d'église, on accueillait les fidèles pour la célébration de la messe, des baptêmes et aussi des mariages. Vous avez encore des familles de Villers-Bocage qui très anciennes qui se rappellent ces événements de baptême, de mariage et d'inhumation dans ce genre de bâtiment, quoi. Alors c'était très sommaire, mais cependant ça avait le mérite d'accueillir, d'abriter les gens. Donc il a fallu aussi une très grande volonté de la part de la population d'une part, et ensuite des autorités religieuses pour pouvoir reconstruire, alors non seulement la ville elle-même, mais aussi les bâtiments, et notamment l'église, une salle paroissiale et un presbytère.
Placez-vous sur la place centrale face à l'église. L'église d'aujourd'hui a été reconstruite à partir de 1947. Son architecte, M. Le Sauter, s'inspira de l'église Santa Maria Assunta de Torcello, petite île proche de Venise. Cette influence se discerne au niveau des dimensions et de la présence d'un campanile relié au bâtiment central par un portique ouvert, couvert d'une dalle de béton. Cette église paraît très originale dans son style. Elle n'est ni romane ni gothique, mais plutôt d'inspiration romaine. Elle prend en effet le plan d'une basilique. À partir du IVe siècle, la religion chrétienne est autorisée dans l'Empire romain. Les chrétiens peuvent donc construire des églises pour assembler les fidèles. Très vite, ils vont reprendre le plan des basiliques civiles romaines. Plusieurs d'entre elles furent d'ailleurs offertes à l'Église pour célébrer le culte chrétien. Cet édifice public convient bien au culte du fait de sa taille, car l'Église se doit d'accueillir l'ensemble des fidèles. Les chrétiens n'ont pas pu reprendre le modèle du temple gréco-romain, car il était trop étroit pour accueillir des fidèles. Au point de vue architectural, une basilique est une église sans transept, avec parfois une seule nef. L'architecture de l'église de Villers reprend ses caractéristiques. Le clocher de l'église, quant à lui, culmine à 33 mètres de hauteur et est visible à 6 km aux alentours, ce qui lui a valu un drôle de surnom.
Au moment où on a reconstruit cette église, elle a suscité quand même un certain étonnement. Les gens de l'époque disaient, mais notre église, surtout avec son peut-être ce grand clocher qui est quand même assez, qui est très imposant, on appelait ça le silo. Donc le silo, c'est là où on met le grain, c'est ça, parce que ça avait cette forme un peu particulière, quoi.
Les 90 mètres de longueur de l'édifice en font l'église la plus imposante du pré-bocage. Les murs sont en pierre de taille, en calcaire de l'Oise, qui est particulièrement dur.
De l'église de Villers-Bocage, ce n'est pas la pierre de Caen. Ce sont des pierres qui proviennent de l'Oise. Voilà, moins calcaire, plus solide, qui résiste mieux à l'épreuve du temps.
Dirigez-vous vers le porche de l'édifice. En vous approchant, vous pourrez admirer le portail en lame de fer forgée, avec des motifs en bronze. Il est surmonté d'un auvent de béton, décoré d'une mosaïque de verre.
L'église de Villers, en fait, de façade, sur le parvis, on voit que ça ressemble à la forme d'un temple, un peu comme les temples grecs. Enfin, c'est un peu cette forme-là. Hein.
La première pierre fut bénie par le futur pape Jean XXIII. 5 ans plus tard, en 1955, elle sera consacrée. L'église Saint-Martin reste l'une des réussites de l'architecture religieuse de la Reconstruction. En 2004, elle obtient le label Patrimoine du XXe siècle. Cependant, le nouvel édifice attire bien des critiques.
Parce qu'avant, j'étais habitué à voir des... Toute l'architecture avant n'était pas pareille que maintenant, hein. Mais je trouve que pour un début, c'était leur tour de la construction. Hein. Peut-être qu'ils ont fait ça pour qu'il y ait quelque chose, quoi.
Oh bah oui, alors là, ça plaisait pas, là. L'église, ça plaisait pas, hein, du tout. C'était du moderne, là. Et... Ah non, ça plaisait même pour le curé, hein. L'abbé Vigo, ça lui plaisait pas. Bah, c'est le pape qui est venu l'inaugurer, là.
Au départ, c'est vrai que l'église suscitait l'étonnement, parce que, étant donné qu'elle ne ressemblait pas forcément, elle ressemblait pas du tout à celle qui existait avant la guerre, bien que celle d'avant-guerre était déjà qualifiée de « moderne », entre guillemets. Donc, voilà. Mais alors là, quand il a été question de cette nouvelle église là, au centre de Villers, alors là, cette fois-ci, pour les gens, elle était devenue très moderne. Hein, très moderne. Et puis, petit à petit, je pense que les gens aussi se sont appropriés le lieu de culte, hein. Et elle est entrée progressivement dans l'histoire de la vie des gens de Villers-Bocage. Mais comme tout ce qui est nouveau, ça paraît toujours un petit peu, il y a un côté un petit peu qui dérange. Mais bon, au fur et à mesure que les années ont passé, eh bien, on a commencé peut-être à mieux comprendre et à découvrir aussi cette église.
Fin du chapitre 10. Chapitre 12. La mairie et la maquette de la ville. La route nationale est l'axe de reconstruction de la ville. Il a été décidé qu'une place rectangulaire en son milieu sera le cœur du bourg. Au nord se trouvera l'église. Au sud, la mairie et les bâtiments administratifs. La poste dans l'aile frontale et la perception dans la partie perpendiculaire. L'ancien hôtel de ville a été incendié le 14 juin 1944. L'hôtel de ville actuel est composé au rez-de-chaussée des bureaux du maire, des adjoints, des secrétaires et des salles du conseil municipal et des mariages. À l'étage se trouve la salle des fêtes. En rentrant à l'intérieur de l'hôtel de ville, empruntez le couloir à gauche. Une fois devant la maquette de Villers-Bocage, passez au commentaire
suivant. Chapitre 13, la maquette de la ville.
En rentrant à l'intérieur de l'hôtel de ville, vous pouvez découvrir la maquette de Villers-Bocage avant sa destruction. Les plans sont plus ou moins similaires.
C'est similaire, hein, parce qu'il y a la rue principale. Dans le temps, il y avait la rue principale et une rue parallèle de chaque côté. C'est tout ce qu'il y avait. Et le boulevard de la gare, là. Ils ont fait à peu près la même chose. Hein. Mais au départ, ils voulaient faire quand même, qu'ils voulaient faire une voie montante et une voie descendante, avec un souterrain au milieu, sur la place de la mairie, là. Puis ça n'a pas eu lieu.
En observant la maquette, nous pouvons distinguer l'ancienne église Saint-Martin, en bas du bourg, mais aussi la rue principale, avec en son milieu une halle couverte et au-dessus la statue de Richard le Noir. Plus au sud, nous trouvons un espace vide, qui abrite aujourd'hui le marché couvert, avec à sa proximité l'ancienne gare de Villers. Tout en bas de la maquette se trouve le château de Villers, magnifique spécimen de l'architecture du XVIIe siècle. Même s'il n'est pas ouvert au public, n'hésitez pas à passer devant pour l'admirer. Le plan de Villers conserve aujourd'hui cette rue principale entourée de deux artères parallèles, la rue Saint-Martin et la rue Saint-Germain. La reconstruction de Villers est donc restée fidèle à l'organisation de l'ancien bourg. En ressortant de la mairie, descendez la rue principale en direction de l'office de tourisme. Pensez à vous arrêter devant la première pierre de la reconstruction, posée au numéro 34 de la rue Pasteur. Fin du chapitre 13. Chapitre 14. La première pierre. Le 7 mars 1948, la première pierre de la reconstruction du bourg est posée. Ce bloc est extrait des ruines de l'ancienne église, détruite en juin 1944. Le point final de la reconstruction aura lieu le 8 juillet 1960, lors de l'inauguration de la mairie par le général de Gaulle.
De Gaulle est venu à la mairie, hein, il n'y a pas été longtemps, hein, il est venu sur la place de la mairie pour la mairie. Sa femme a été, Madame de Gaulle a été à la maison de retraite, et puis il est reparti. Ah oui, il y a du monde. Ah bah oui, oui. Bah, à ce moment-là, de Gaulle, c'était le début, quoi. Ça a changé, hein. Et ça a changé encore en plus. Hein.
Fin du chapitre 14. Chapitre 15. Villers aujourd'hui. Depuis, Villers-Bocage est une ville résolument tournée vers l'avenir. C'est un véritable pôle alimentaire et l'activité artisanale et commerciale est très diverse et de bonne qualité. L'implantation d'industries alimentaires telles Soviba ou encore Brocéliande a permis de développer un bassin d'emploi important pour la ville et ses alentours, avec environ une trentaine d'entreprises industrielles. L'embellissement de Villers-Bocage se poursuit et la proximité de l'autoroute A84 est un atout majeur. Villers-Bocage est maintenant très proche de grandes agglomérations comme Caen ou Rennes.
Villers, il a pris de l'importance, hein, parce que je veux bien me renseigner. Et quand je vois toutes les maisons qui se lèvent, ben, vous savez, ça a pris de l'importance. Hein, parce que rue de Bayeux, la Borotille, tout ça, là, ça n'existait pas avant toutes ces maisons-là. Hein, derrière, là. Il y avait que des champs avant, ça n'existait pas non plus. Hein. Tout a été refait à neuf. Hein, et plus haut, ça fait pareil. Alors, il y a eu beaucoup d'améliorations. Hein.
Mais Villers-Bocage fait aussi partie du pays touristique du Pré-Bocage, qui regorge de patrimoine, terroir et gastronomie. Continuez votre découverte de la région avec la route des traditions, le sautéroscope des ardoisières, le zoo de Jurques, les chapelles du Pré-Bocage. N'hésitez pas à nous demander conseil et bien sûr, ne manquez pas la visite guidée donnée sur Audon.
Vous avez des églises très anciennes qui effectivement datent du XIIIe, XIVe siècle. Vous avez par exemple une église comme Saint-Loué-sur-Seule, Peugrolles-sur-Seule aussi. Ces églises-là sont quand même des églises très, très anciennes. Vous avez une église aussi très ancienne avec Villy-Bocage. Tracy-Bocage, du XIIIe siècle, Tracy-Bocage, avec une tour qui est quand même assez particulière, la tour du clocher. Vous avez d'autres églises aussi, alors dans le canton de Caumont-l'Éventé, bien vous avez l'église de Livry, qui est particulièrement belle aussi, qui a été très très bien restaurée. Voilà, l'église de Caumont-l'Éventé, elle aussi, elle a souffert à la guerre, mais enfin on a reconstruit à l'identique. Hein.
Fin du chapitre 15. La visite touche désormais à sa fin. L'Office de tourisme vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de nous ramener les lecteurs MP3 au point de départ. Nous espérons que vous avez apprécié la visite et vous souhaitons une bonne journée et un agréable séjour dans le Pré-Bocage. Enfin, nous tenons à remercier M. Michel Marie, M. Daniel Leclerc, Monsieur Pierre Kéruel et le Père Senier pour leurs témoignages très précieux, sans qui nous n'aurions pu faire cette visite.